Bonjour, nous sommes le jeudi 21 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Le gouvernement et les éditeurs de presse ont trouvé un accord sur un nouveau mode de soutien à la distribution des journaux et des périodiques sous la forme d'un crédit d'impôt jusqu'en 2026. Le médiateur des télécoms croule de nouveau sous les plaintes des consommateurs et elles concernent souvent le manque de communication des groupes de télécommunications. La Fed a laissé ses taux directeurs inchangés hier soir. C'était attendu. Par contre, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, maintient son objectif de 3 baisses des taux en 2024. Je suis Laurent Fabry et je vous explique tout ça dans le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Depuis l'annulation du marché public de la distribution des journaux, le gouvernement et les éditeurs de journaux ont négocié durement et un nouveau mécanisme de soutien à la presse s'affine. Il prendra la forme d'un crédit d'impôt dont les éditeurs bénéficieront à partir du 1er juillet. Un montant par exemplaire et par région a été fixé en fonction de la densité de la population. Les précisions de Mathieu Collein.
Oui, bon, il y a peut-être deux éléments à relever dans cet accord intervenu en Cairn. C'est d'abord que le budget initialement prévu de 50 millions d'euros par an jusqu'en 2026 est maintenu, avec un système de crédit d'impôt qui avantage pas mal les zones qui sont peu peuplées et donc la distribution des journaux plutôt en Wallonie. Donc finalement, ce qu'on entend, c'est que le subside ira à 60% pour la distribution des journaux en Wallonie. Donc voilà, c'est un accord peut-être qui diminue quand même drastiquement le soutien de l'État à la distribution des journaux, mais cet accord a le mérite d'exister parce qu'au 1er juillet, il fallait trouver une solution, ce qui a finalement été fait par le gouvernement.
Après le 30 juin et la fin du contrat avec Bpost, les éditeurs de presse pourront décider de l'opérateur qui se chargera de la distribution des journaux, avec sans doute une préférence pour Bpost pour des raisons opérationnelles. Et puis du côté des réactions, écoutez celle de François Léaudet, il est patron d'IPM, qui publie La Libre et La Dernière Heure, mais il est aussi le représentant des éditeurs de la presse francophone.
C'est un accord important, il était urgentissime que le gouvernement se prononce sur la solution qui succédera à la fin de la concession, parce que dans 100 jours à peu près, nous sommes, laissés à nous-mêmes, puisque le gouvernement a décidé en décembre dernier d'arrêter la concession postale, donc le service universel de distribution des journaux. Alors d'une part, je crois qu'il faut être très clair, cette décision prise en décembre est quelque chose qui affecte très durement la presse quotidienne, et donc on le regrette vivement, et on pense qu'il y aura un avant et un après cette décision. Mais d'un autre côté, on a un certain soulagement qu'enfin on ait pu aboutir à un consensus qui englobe à la fois la presse flamande et la presse francophone. La grande inconnue, c'est qu'il s'agit à ce stade que d'un système transitoire. Le système de concession était un système qui se renouvelait de 5 ans en 5 ans. Or ici, le gouvernement, il dit, ben voilà, je vous donne un crédit d'impôt jusqu'à fin 2026. Et puis après ça, personne ne sait.
Trois mesures fiscales ont par ailleurs été prises par le gouvernement fédéral hier lors de ce Cairn pour stimuler la compétitivité des entreprises. Le secteur biopharmaceutique qui investit dans l'innovation ne devra pas payer plus que le minimum de 15% d'impôts. La deuxième mesure renforce la dispense partielle de précompte professionnel pour le travail de nuit et en équipe dans les entreprises, et ça jusque fin 2026. Le dernier point concerne les travailleurs qui effectuent des travaux de voirie ou ferroviaire dans le secteur de la construction. Le maximum d'heures supplémentaires fiscalement avantageuses passera de 180 à 280 heures par an. Enfin, le gouvernement fédéral a élargi le régime de TVA réduite à 6% aux travaux de démolition et reconstruction d'immeubles destinés à la location. Évidemment, il faut répondre à certaines conditions, mais les propriétaires professionnels sont satisfaits. Ils réclamaient le retour de cette mesure prise pendant le Covid et qui ne s'appliquait plus qu'aux particuliers. Écoutez le soulagement d'Olivier Carrette, CEO de l'Union professionnelle du secteur immobilier.
3623 logements n'auraient pas été développés si cette mesure mesure avait perduré. Il s'agissait d'une perte d'investissement de plus de 550 millions d'euros, donc ce qui est tout de même gigantesque, et aussi des recettes TVA non perçues pour le gouvernement fédéral de 33 millions d'euros. À côté de l'aspect financier, je crois que c'est aussi tout à fait important pour l'accessibilité au logement. Je vous rappelle, on a un des parcs immobiliers les plus vieux en Europe, donc il est urgent de moderniser notre parc immobilier, et cette mesure est la bienvenue pour soutenir un secteur qui en a vraiment bien besoin actuellement.
Comment tenir compte de la pénibilité d'un métier pour le calcul d'une pension plus juste? Et ça, dans un cadre budgétaire fermé, c'est un exercice qui semble quasiment impossible. Deux universitaires se sont penchés sur le sujet et ils avancent une réflexion dans le dernier numéro de la revue de l'IRES. Ils recommandent de rééquilibrer ce que l'on verse à l'ensemble des retraités. Alors quelles sont les pistes? Eh bien, des éléments de réponse avec Jean Hendricks, l'un des auteurs de l'article. Il est professeur d'économie à l'UC Louvain.
Ici, l'idée est de cibler en priorité les bas salaires et les personnes peu qualifiées qui sont plus sujets, si vous voulez, à être exposés à des risques professionnels. Donc, ça limite déjà le coût puisqu'on limite finalement la compensation en termes d'années d'anticipation pour les bas salaires. Et on finance ça par un ajustement à la baisse des pensions les plus élevées. Donc, ceux qui finalement profitent d'un salaire plus élevé, les plus qualifiés, qui ont aussi commencé leur carrière plus tard et qui vivent plus longtemps, qui vivent jusqu'à 6 à 7 ans plus longtemps que les moins qualifiés. Donc j'appelle ça un mécanisme autoporté, au sens où il n'a pas besoin d'être renfloué par de l'argent extérieur. C'est finalement une redistribution au sein des pensionnés entre les pensions élevées et les pensions plus faibles, sachant que ceux qui ont les pensions plus faibles sont généralement ceux qui ont été exposés à des métiers à risque professionnel, dommageables pour leur santé.
Mais pas facile de définir ce qu'est un métier pénible. Le gouvernement fédéral n'y est d'ailleurs pas parvenu.
Oui, donc c'est difficile à objectiver, comme vous le dites, mais on ne peut pas dire qu'à 67 ans, tous les métiers sont pénibles. Donc il existe des critères objectifs, par exemple le fait de travailler dans une pièce très chaude, d'avoir du travail de nuit à partir d'un certain âge, d'être soumis à un stress intense. Il y a même des métiers qui tuent, donc les gens décèdent de manière prématurée. Donc des critères avaient été fixés et ici le but est d'inviter les partenaires sociaux à identifier en fait ces métiers pénibles et à offrir une compensation pour pénibilité.
Alors pour le moment, l'étude ne prend en compte que les salariés, pas les fonctionnaires statutaires ni les indépendants. Et si les sujets vous intéressent, je vous mets le lien de l'étude dans les notes de l'épisode. Après plusieurs années de baisse, le nombre de plaintes qui visent les opérateurs télécom remonte en flèche. Plus 65% entre 2022 et 2023, c'est du jamais vu. L'augmentation vient principalement de Telenet, qui concentre les mécontents, mais ses concurrents enregistrent aussi des hausses importantes de 20 à 30%. Plus de 17 000 plaintes ont été déposées l'année dernière, dont 3 fois plus pour Telenet. David Huyam, le médiateur des télécoms, en détaille les raisons.
Alors oui, l'opérateur Telenet a changé de plateforme IT et il y a eu certains bugs, certains problèmes, ce qui a amené du coup évidemment toutes sortes de problèmes, c'est-à-dire que tout acte au niveau du client qui était fait vis-à-vis de l'opérateur Telenet posait problème, que ce soit la résiliation, changement tarifaire, déménagement ou autre, même le tarif social notamment. Donc ça a généré une explosion de plaintes chez l'opérateur qui n'a pas su gérer non plus cette explosion, ce volume de plaintes au niveau de son service clientèle. Donc on a eu aussi du coup énormément de plaintes au service de médiation parce que tout simplement, vu le volume de plaintes, les clients n'arrivaient pas à joindre leur opérateur.
Et chez les autres opérateurs comme Proximus, Orange ou vous, eh bien ce sont les services clientèle justement qui posent le problème le plus souvent. Parfois, il n'y a même plus une adresse mail pour communiquer. Alors les clients se tournent vers le médiateur télécom pour régler leurs problèmes. Le secteur du luxe s'est pris une sérieuse claque en bourse hier après la publication des résultats de Kering. Le propriétaire français de Gucci fait état d'une chute des ventes de sa marque de près de 20% au premier trimestre, essentiellement à cause d'une certaine frilosité du marché chinois. Le problème aussi, c'est que Gucci est en perte de vitesse, alors que la marque représente 2/3 des bénéfices de Kering. La priorité est donc de la relancer, selon le PDG du groupe, François-Henri Pinault. Du coup, l'ensemble du secteur a perdu des milliards en bourse en une seule séance hier. Cela illustre également la fragilité plus globale du secteur du luxe. Les principaux groupes peinent à dépasser leurs difficultés face à une demande bien plus faible que prévue en Chine depuis le Covid. Des fractures commencent donc à se révéler et les résultats de Kering sont un avertissement clair à ses concurrents. Pas de précipitation, il est urgent d'attendre encore. La Fed reste prudente et a décidé d'acter hier sa cinquième pause d'affilée dans l'évolution de ses taux. La Réserve fédérale américaine maintient donc ses taux d'intérêt directeurs entre 5,25 et 5,5%. Elle préfère attendre que l'inflation ralentisse encore avant d'évoluer. Par contre, ses membres continuent à tabler sur 3 baisses des taux d'intérêt en 2024. Hier soir, la Bourse de New York a célébré avec enthousiasme le maintien de cette perspective de 3 baisses des taux. Les 3 indices new-yorkais ont inscrit de nouveaux records. Le Dow Jones a gagné plus de 1%, le Nasdaq a bondi de 1,25% et le S&P 500 avance de 0,89%. Ce matin, à Tokyo et sur la plupart des bourses asiatiques, la séance a ouvert en nette hausse. Le Nikkei gagne 1,74% à la mi-séance. Depuis le 1er janvier dernier, les salariés qui tombent malades durant une période de congé peuvent récupérer ces jours et les reprendre plus tard. Après les premières vacances scolaires de ce début d'année, quel bilan peut-on tirer de cette nouvelle disposition? Une étude de SD Works, le secrétariat social, vient un peu nous éclairer. Alors même si les chiffres sont encore à prendre avec précaution, ça n'est encore qu'une première expérience, aucun abus ne semble avoir été constaté. Globalement, le nombre de congés annulés pour cause de maladie n'a pas explosé. Depuis le début de l'année, 7,7% des demandes de congés ont ensuite été annulées et converties en maladie, contre 7,1% pour la même période en 2023. La différence n'est donc pas très marquée. Jusqu'ici, pour rappel, on ne pouvait annuler ses congés qu'en cas de maladie, juste avant ses congés. Enfin, un mot pour vous signaler que les pilotes de Brussels Airlines feront quand même grève du 27 au 30 mars prochain. Les négociations salariales ont échoué avec la direction. Pourtant, elles semblaient en bonne voie jusque hier soir où tout a basculé finalement. Guillaume Cordeau était à la préparation de ce brief. Belle journée à tous et on se retrouve demain.